Le journal de la rédaction vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. La Tunisie marque le 7e anniversaire de sa révolution avec des manifestations dans tout le pays. Contexte particulièrement revendicatif cette année. Les Tunisiens qui espèrent toujours le retrait de la nouvelle loi des finances. Reportage de notre envoyé spécial Yann Gallic au début de ce journal. Nous ferons le point également sur la situation des mineurs palestiniens emprisonnés en Israël. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme sont inquiètes pour ceux qui ont été arrêtés récemment. Et cela dans le contexte de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale du pays. Par les Américains. Aux États-Unis, justement, l'ex-informatrice de Wikileaks Chelsea Manning sera-t-elle la prochaine sénatrice démocrate de l'État du Maryland ? La lanceuse d'alerte transgenre vient de se déclarer. Explication à suivre de Marco Voltaire. Enfin, en France, est-ce la fin bientôt des zones blanches, ces territoires qui ne sont pas couverts par un réseau Internet ? Le gouvernement annonce un accord historique entre les quatre acteurs de la téléphonie mobile. Analyse à suivre du spécialiste des télécoms à l'UFC Que Choisir, Antoine Autier. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
Nous prendrons un peu de chance sur toutes les mesures qui se succèdent pour rénover le modèle social, comme le dit et comme l'écrit le gouvernement. Ordonnance réformant le code du travail, réforme de l'assurance chômage ou de la sécurité sociale, ou comment notre modèle social est en train d'opérer une révolution sourde. On en parle et on en débat avec le juriste Emmanuel Dauquès et l'économiste Jean-Marc Daniel.
Merci Julie et à tout à l'heure, 18h15. 7 ans après la révolution du jasmin en Tunisie qui a marqué le début des printemps arabes, les citoyens sont sortis dans les rues cet après-midi pour célébrer la chute du dictateur Ben Ali. Mais 7 ans après, les défis socio-économiques restent entiers. Pauvreté, chômage de masse, corruption. Avenue Bourguiba à Tunis, les slogans étaient les mêmes qu'en 2011. Travail, liberté, dignité. Un anniversaire fêté après une semaine de manifestations souvent violentes et une journée particulièrement revendicative.
Ce 7e anniversaire de la révolution a un goût amer pour beaucoup de Tunisiens. Ils sont des milliers rassemblés dans le centre-ville de la capitale, des manifestations encadrées par une imposante présence policière. La société civile, les syndicats et les principaux partis politiques d'opposition sont descendus dans la rue. Plus qu'une fête, c'est surtout un jour de colère, explique Mohamed Bellage. Cet enseignant fait partie de l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail.
Qu'est-ce qu'on fait ? La révolution en 2011 a mis des objectifs qu'on n'a jamais atteints. Le peuple tunisien n'a pas de quoi manger, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Avec ce gouvernement, on n'a rien vu.
Des slogans et des banderoles contre l'austérité, les manifestants espèrent toujours le retrait de la nouvelle loi des finances qui a imposé l'augmentation des prix et des impôts.
Aujourd'hui, on n'en peut plus économiquement, les gens n'arrivent plus du tout à joindre les deux bouts. Le citoyen a enfin réagi. Pour dire stop, pour dire les politiques doivent maintenant se remettre en question et remettre les priorités sur la table, et les priorités aujourd'hui sont socio-économiques.
Le gouvernement a annoncé hier une série de mesures en faveur des familles les plus démunies, mais pas sûr que ce geste fasse retomber la contestation.
Un reportage signé de notre envoyé spécial à Tunis, Yann Gallic. Au Proche-Orient, l'Organisation de libération de la Palestine est réunie en ce moment même à Ramallah. Se réfléchit une stratégie politique après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Car pour l'instant, les Palestiniens réagissent avec colère en provoquant dès que possible les militaires israéliens. L'adolescente Ahed Tamimi est ainsi devenue l'icône de cette résistance. Détenue dans une prison israélienne depuis bientôt un mois pour avoir frappé des soldats israéliens. Elle sera présentée demain devant un tribunal militaire. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme alertent sur son sort et sur le sort des mineurs palestiniens arrêtés récemment par Israël, Marine Vlaovic.
Parce qu'ils sont souvent en première ligne des manifestations, les adolescents palestiniens sont une cible de choix pour l'armée israélienne. Le nombre de mineurs incarcérés à la prison militaire israélienne d'Ofer a doublé en décembre dernier. Ils seraient 77 à être passés par les geôles israéliennes ou à y être encore emprisonnés. Mais c'est moins en raison de leur nombre que de leur statut particulier qu'ils sont les premières victimes de la répression israélienne. Car ces adolescents sont soumis au système judiciaire militaire. Ayed Abou Ektayesh est chargé de programme de l'ONG Défense Internationale des Enfants.
Les enfants sont interrogés sans la présence d'un membre de leur famille ou de leur avocat, et tous les enfants qui sont arrêtés et poursuivis sont exposés à différents mauvais traitements ou à des tortures, le but de ces traitements étant d'arracher des aveux aux enfants, des aveux qui constituent ensuite des preuves pour le système judiciaire militaire.
Si les enfants de 12 et 13 ans ne peuvent pas être condamnés à plus de 6 mois de prison, les adolescents de 14 ans et plus, eux, sont traités comme des adultes. Ils sont ainsi passibles de plusieurs années d'emprisonnement pour avoir jeté des pierres sur des soldats. Il y a enfin la question des enfants tués et blessés par l'armée israélienne. 3 mineurs ont perdu la vie en Cisjordanie et à Gaza ces derniers jours. Selon l'ONU, plus de 500 enfants ont été blessés le mois dernier au cours des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.
La correspondance à Ramallah de Marine Vlaovic. Au Pérou, au moins 2 personnes ont été tuées et 65 autres blessées. Il y a eu un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter dans la région d'Arequipa au sud du pays. L'épicentre du séisme se trouve en mer à 60 km environ de la ville côtière de Lomas où des maisons de terre séchée se sont effondrées. Cela pourrait être la pire marée noire depuis 1991, quand 260 000 tonnes de brut s'étaient déversées au large de l'Angola dans l'Atlantique. Cette fois-ci, c'est la mer de Chine orientale qui est concernée. À 300 km de Shanghai, il y a eu une collision il y a 8 jours entre un pétrolier iranien et un navire céréalier chinois. Les autorités de Pékin minimisent les risques environnementaux, mais le pétrolier qui a coulé avait à son bord 136 000 tonnes d'hydrocarbures. Le bateau comptait également 32 personnes à bord, plus d'espoir ce soir de retrouver des survivants. L'ancienne analyste transgenre de l'armée américaine Chelsea Manning convoite l'investiture du Parti démocrate américain pour l'élection sénatoriale dans le Maryland. Également connue pour avoir transmis à Wikileaks des informations classifiées en 2010, la jeune femme a été condamnée à 35 ans de prison, même si Barack Obama l'a graciée en 2017. De retour dans son état natal, Chelsea Manning se verrait bien remplacer le sénateur de 74 ans qui occupe ce poste depuis 2007, Marco Voltaire.
Yep, we are running for Senate. Oui, nous sommes en campagne pour le Sénat, tweetait Chelsea Manning dimanche matin pour bel et bien confirmer l'information selon laquelle elle se lançait dans la campagne électorale au poste de sénateur du Maryland. Hashtag We Got This, nous y arriverons. À 30 ans, l'ancienne informatrice de Wikileaks, condamnée pour espionnage, va donc briguer l'investiture chez les démocrates avec en perspective une bataille générationnelle lors de la primaire, puisqu'en face, son opposant, le sénateur démocrate sortant Ben Cardin, a 74 ans, sans compter le gap d'expérience. Chelsea Manning se lance en politique. Ben Cardin siège au Congrès à Washington depuis déjà 3 décennies. Chelsea Manning, née Bradley, avant de changer d'identité, entamer un traitement hormonal pour devenir une femme, était revenue dans le Maryland après sa libération de prison l'an dernier. Les élus transgenres sont encore très rares aux États-Unis, même si le pays a assisté à la victoire fracassante en novembre dernier de la démocrate Danica Roem, première personne ouvertement transgenre à faire son entrée à l'Assemblée de l'État de Virginie. L'un de ses arguments a notamment été de ringardiser la transphobie de son adversaire républicain.
Les explications à New York de Marco Voltaire. En Allemagne, l'encre de l'accord de gouvernement est à peine sèche et pourtant une partie des sociodémocrates remettent déjà en cause le compromis de coalition avec la CDU-CSU de la chancelière Merkel. Plusieurs responsables du SPD ont pris leur distance ce week-end avec ce texte censé être entériné le 21 janvier prochain en congrès. Exemple avec la dirigeante de Rhénanie-Palatinat. Elle dénonce cet après-midi la politique migratoire qui plafonne à 200 000 environ le nombre de demandeurs d'asile autorisés par an pour satisfaire, selon elle, le camp conservateur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, à Rome, le pape François a célébré une messe spécifique en la basilique Saint-Pierre. Il a lancé une nouvelle fois un appel à l'hospitalité envers les immigrés. François, qui est aussi issu d'une famille d'émigrés italiens venus en Argentine, reconnaît qu'il n'est pas facile de comprendre les pensées des nouveaux arrivants ainsi que leur expérience. Mais son message est sans aucune équivoque, Olivier Tosseri.
Surmontez vos peurs et accueillez, c'est le message que le pape a une nouvelle fois lancé. Il a mis en exergue 4 verbes en cette journée mondiale des migrants. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. un parcours sur lequel se trouve un obstacle, celui de la peur, celle réciproque des migrants et des communautés qui les accueillent lorsque des personnes qui ont une culture différente doivent vivre ensemble. Les communautés locales ont parfois peur que les nouveaux arrivés perturbent l'ordre établi, a expliqué le pape. Il demande aux migrants de respecter les lois des pays dans lesquels ils arrivent, mais il demande aussi que l'on comprenne la peur qu'ils ressentent pour leur futur, celle de la discrimination, de l'échec, des craintes légitimes humaines, souligne le pape. Ce n'est pas un péché. Ce qui l'est en revanche, c'est de laisser ces peurs déterminer nos réponses, conditionner nos choix, compromettre le respect et la générosité, alimenter la haine et le refus. Le péché, a insisté François, c'est de renoncer à la rencontre avec l'autre, un plaidoyer qu'il ne cesse de répéter depuis le début de son pontificat.
Le compte-rendu à Rome d'Olivier Tosseri. Mettre fin aux zones blanches, ces territoires souvent ruraux qui n'ont pas accès à un réseau Internet. C'est l'ambition des 4 opérateurs de téléphonie mobile en France. Ils vont investir plus de 3 milliards d'euros pour une couverture plus optimale du territoire. Le secrétaire d'État Julien de Normandie l'a annoncé dans le journal du dimanche ce matin. Les précédents gouvernements s'y étaient engagés. Alors pourquoi cette fois-ci la promesse serait tenue? La réponse d'Antoine Autier, le responsable adjoint du service des études à l'UFC Que Choisir.
Contre cet engagement des opérateurs, l'État renonce à leur vendre les fréquences mobiles. C'est-à-dire finalement, c'est un cadeau que fait l'État aux opérateurs en ne vendant pas ce patrimoine qui appartient à tous les Français et en disant « mais en contrepartie, vous devez déployer la téléphonie mobile, l'Internet mobile sur les zones qui aujourd'hui en sont dépourvues ». Donc évidemment, c'est tout à fait crédible puisque ça arrange aussi bien l'État que les opérateurs.
Avant, c'était plutôt des engagements qui n'engageaient que ceux qui les tenaient, et en l'occurrence les opérateurs. Là, aujourd'hui, il semblerait que les opérateurs prennent finalement des engagements contraignants, c'est-à-dire que s'ils ne respectent pas ces obligations de déploiement dans les zones blanches, eh bien alors des sanctions pèseront sur ces opérateurs. Donc là, enfin, on peut avoir un bon espoir de déploiement de la téléphonie mobile et de l'Internet mobile dans les zones blanches, des zones qui aujourd'hui sont dépourvues évidemment de téléphonie mobile, et on voit à quel point cela est problématique pour les consommateurs.
Interview signée Benjamin Delisle. Dans l'affaire du lait contaminé au salmonelle, le patron de Lactalis est en train de rappeler toutes les boîtes de lait produites sur le site de Cran en Mayenne. Cela concerne 83 pays. Emmanuel Beignet est sorti de son silence ce matin, également dans le JDD. Deux pleines pages pour s'expliquer sur la contamination qui a démarré il y a plus d'un mois et qui a rendu malade au moins 36 bébés, dont un en Espagne. Pour François Carlier, le délégué général de la CLCV, une association de défense des consommateurs, cet entretien ne répond qu'en partie aux nombreuses questions sanitaires toujours en suspens.
Ça ne clôt pas le sujet, parce que bon, il fait un rappel de produit, donc très bien. Est-ce qu'il y a eu ou pas respect de la réglementation? Ça, c'est pas Emmanuel Beignet de le dire maintenant. Ça va être un juge d'instruction qui sera nommé, et ça sera l'enquête qui va vraiment devoir permettre de déterminer ce qui s'est réellement passé. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'il semblerait quand même que les problèmes dans cette usine aient commencé il y a plusieurs mois, et que la procédure de rappel a été enclenchée fort tard. Ça arrive quand même pas souvent, ce type de contamination aussi lourde. Et puis, surtout, on s'interroge beaucoup sur le fait de, au début, quand même, ils n'avaient pas envie vraiment de communiquer, de jouer la transparence. Maintenant, ils le font parce qu'ils ont vraiment plus le choix. Et c'est toute cette chaîne de décision qui va devoir être analysée par le juge.
Des propos recueillis par Olivia Ferrandi. Dominique Bussereau prend ses distances avec le parti Les Républicains de Laurent Wauquiez. L'ancien ministre des Transports, actuel président du conseil départemental de la Charente-Maritime, estime que la ligne rouge a été franchie. Il ne se sent plus du tout en accord avec la ligne politique du parti qu'il voit dériver vers le nationalisme et le conservatisme.
Je ne m'y sens plus à l'aise. Moi, je me suis engagé en politique lorsque j'avais 20 ans, grosso modo, pour l'engagement européen. J'ai trouvé à mener ce combat avec Giscard, ensuite dans l'UDF, ensuite dans l'UMP, quand nous avons pu en 2002 faire que les gaullistes, les radicaux, les centristes, les libéraux se rejoignent sur un certain nombre de sujets, donc sur l'Europe. Et puis je vois la formation politique, les Républicains, dériver vers nationalisme, un repli, un conservatisme, d'où ma décision de m'en mettre en congé jusqu'au moment des élections européennes où je verrai bien ce qu'ils racontent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Les positions nationalistes, y compris antilibérales de Guillaume Pelletier, sont aux antipodes de mon engagement politique. Sur le Front National, j'entends certaines prises de parole. Il y avait récemment un comparatif dans Libé, je crois, il y a quelques semaines, sur des propos en disant est-ce qu'ils ont été tenus par quelqu'un des Républicains, quelqu'un du Front National. Et c'est vrai qu'à certains moments, pour certains porte-parole, j'ai trouvé des propos rigoureusement ou quasiment identiques ce qui pour moi est naturellement tout à fait inadmissible.
Le républicain Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, actuel président du conseil départemental de la Charente-Maritime. La météo de votre lundi 15 janvier, c'est le retour des nuages par l'ouest avec de la pluie en Normandie et en Bretagne, ciel également couvert dans les Hauts-de-France et en région parisienne, alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs et les températures 3 à Strasbourg, 5 à Paris et Lyon, 6 à Lille, 8 à Bordeaux, 10 à Marseille et jusqu'à 11 à Brest. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto.